on fait du cinéma comme si la vie suffisait pas. De nous voir plus grands des fois, c'est tellement moi que c'est pas moi. Comme demain, comme autrefois, on fait toujours du cinéma.
Bonjour Youri Deschamps, merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Pulse. Comment allez-vous ?
Je vais très bien, je vous remercie, et vous-même ?
Bah écoutez, ça va super. On le rappelle, bon. Vous serez à Granville ce dimanche 8 décembre pour la séance du film Bonjour, un film sorti en janvier 1959, réalisé par Yasujirō Ozu, pour faire une intervention après ce film. Alors, sans nous spoiler évidemment, pouvez-vous nous présenter ce film et nous dire en quoi va consister votre intervention ?
Alors, il s'agit effectivement d'un film japonais de la fin des années 50, d'un réalisateur qui est très représentatif de cette période. Et cette projection à Granville s'inscrit dans le cadre d'une opération qui s'intitule « Classique sur grand écran » et qui est une opération de sensibilisation du public à l'histoire du cinéma. Donc nous projetons des films anciens, qui ont fait l'objet d'une restauration numérique récente, puisque depuis que le cinéma dispose des technologies numériques, on peut revoir dans les meilleures conditions qui soient des films du patrimoine, bon, qui ont été restaurés donc grâce aux technologies numériques. Donc cette opération existe depuis assez longtemps et rassemble un public qui est de plus en plus nombreux.
Comment est-ce qu'on définit en fait un film de patrimoine ?
Alors un film de patrimoine, c'est un film qui est âgé d'au moins 15 ans, entre 15 et 20 ans. Et nous, en fait, on fait une sélection parmi les films qui ont été restaurés récemment, puisque depuis la transition numérique, c'est-à-dire depuis 2009 à peu près, les pouvoirs publics et les cinémathèques investissent beaucoup dans la préservation et la valorisation du patrimoine. C'est bien qu'il y a des festivals comme le Festival Lumière à Lyon, donc qui sont centrés exclusivement donc sur ces ressorties. Et en fait, nous on établit un programme thématique. Chaque programme est gouverné par un thème à partir donc des films qui ressortent, donc des films anciens qui ressortent dans des copies restaurées. Et les interventions qui suivent donc ces projections visent à mettre en lumière les raisons pour lesquelles ces films sont restés, ont constitué véritablement des pièces maîtresses dans l'histoire du cinéma.
Parce qu'en fait, tous les films qui ont plus de 15 ans ne deviennent pas des films de patrimoine.
Si, selon la définition du CNC, si, ils deviennent, ils entrent dans le patrimoine, mais tous ne font pas l'objet d'une restauration numérique. Il y a la valeur et la notoriété, hein, l'importance des films. Le cinéma italien, par exemple, qui a connu une période, un âge d'or entre 1945 et 1975, compte énormément de films de très très bonne, de très très haute qualité. Et l'Italie valorise beaucoup, hein, son patrimoine cinématographique. Donc on a diffusé pas mal de cinéma italien ces dernières années, parce que voilà, sont ressortis des titres phares donc de l'histoire du cinéma italien. Dans le cycle en cours, par exemple, on a passé un film de Luchino Visconti, Bellissima, avec Anna Magnani, un film de 1951, qui était presque d'ailleurs totalement inédit en France, puisqu'il était sorti à la sauvette 10 ans après sa première exclusivité. Et pour le public banormand, ça a été une très très belle découverte cette fois-ci, puisque beaucoup de spectateurs ne connaissaient pas le film et sont venus sur le crédit donc de l'actrice, hein, Anna Magnani, qui, c'est l'un de ses très grands rôles dans ce film.
Et pourquoi c'est important de montrer des films de patrimoine au cinéma ? C'est quoi les nouveaux enjeux ?
Alors les nouveaux enjeux, c'est surtout le suivant, c'est-à-dire permettre au public de découvrir ou de redécouvrir les grands films dans une salle de cinéma. Parce que bien sûr, on peut les acquérir en DVD ou en Blu-ray, mais à cette époque-là, dans les années 50 ou 60, les films sont véritablement conçus pour le grand écran. Donc les voir chez soi ou les voir en salle, ça n'est pas du tout la même chose. On ne voit pas le film de la même façon, on ne s'attache pas forcément aux mêmes aspects. Et ça, beaucoup de spectateurs en font l'expérience depuis que ce dispositif existe.
Vous avez parlé d'un âge d'or italien. Est-ce que la France a connu un âge d'or au cinéma ?
Oui, bien sûr, les années 30 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la période du réalisme poétique, hein, les grands films de Marcel Carnet, les films de Julien Duvivier, les films avec Gabin notamment. Donc ça a été vraiment un âge d'or du cinéma français. Et puis à la fin des années 50, il y a eu évidemment la nouvelle vague, une sorte de renouveau du cinéma, les films de Godard, les films de Truffaut, les films de Romère, les films de Claude Chabrol, par exemple, on en a passé plusieurs. Donc le cinéma français, bon, il a la part belle aussi, hein, parmi ces restaurations. Donc il y a eu plusieurs moments phares et moments clés dans l'histoire du cinéma français, c'est évident.
En janvier 2018, j'ai vu que le CNC avait annoncé une forte réduction des aides publiques à la numérisation de ses films de patrimoine. Quelles sont les conséquences de cela aujourd'hui ?
Alors, il faut distinguer la numérisation de la restauration. La numérisation, c'est une opération qui consiste à transférer un film sur support photochimique, c'est-à-dire sur pellicule, en support numérique. Il n'y a aucune amélioration ou aucun nettoyage de l'image ou du son, ou alors très légère. Tandis qu'une restauration, c'est une opération d'envergure. C'est une opération qui consiste à rénover le film s'il est abîmé, parce que à la différence des copies numériques, les copies pellicules photochimiques s'abîment. Plus on les passe, plus le film s'use. Alors qu'une copie numérique ne connaît pas du tout ce phénomène d'usure. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière est passé sur la chaîne de télévision France 5 le Napoléon d'Abel Gance, qui est un film de 1927 qui dure 7 heures de partie. Donc, la restauration a duré 15 ans. Il y a eu 15 ans de restauration, alors diligentée par la Cinémathèque française, avec l'apport de différentes cinémathèques qui possédaient des morceaux du film en bien meilleur état que d'autres. Il y avait eu une première présentation il y a 7 ou 8 ans de la partie, mais les 7 heures de restauration du Napoléon d'Abel Gance ont demandé 15 ans alors de recherche documentaire sur les techniques employées à l'époque, de restauration pas purement technique, hein, pour que le film soit visible dans les meilleures conditions. Donc c'est un exemple très récent, hein, puisque la restauration a été achevée très récemment. Le film a été présenté dans plusieurs endroits. Il est passé à Caen, d'ailleurs, au Cinéma Luxe. Il a réuni 80 personnes pour 7 heures, ce qui est un beau score. Et il a été diffusé donc la semaine dernière sur France 5, donc en intégralité à partir de 21h. Et ça a été un événement, hein, pour tous les amateurs de cinéma, puisque c'était un film qui était... Alors, c'est la démesure de la fin de la période muette française. Abel Gance était un cinéaste parmi les plus fameux, et il a fait un film hors norme, ne serait-ce que par sa durée, mais aussi par les scènes de bataille, par exemple, qui sont formidables pour un film de la fin des années 20.
Et en moyenne, ça dure combien de temps cette restauration ?
Alors, ça dépend de tas du film, hein, des archives,
oui, évidemment,
dont les cinémathèques disposent. Souvent, c'est le son qui pose le plus de problèmes, parce que le son, c'est beaucoup plus difficile à restaurer. Si on nettoie trop le son original, bien, on dénature le timbre des voix. Alors, quand on connaît la voix des acteurs, ça pose un problème. Mais c'est plusieurs... Alors, ça dépend des équipes aussi, hein. Y a des équipes qui sont plus importantes que d'autres. Alors, le numérique permet une restauration qui engage des coûts, on va dire, raisonnables. Ce qui n'était pas le cas avec... le support pellicule, le support photochimique, déjà les possibilités d'intervention étaient réduites, et puis ça engageait des coûts astronomiques.
Et du coup, Youri Deschamps, vous êtes spécialiste du film de patrimoine, et vous intervenez dans les écoles, collèges, lycées. En quoi c'est important de parler cinéma avec les jeunes ?
Bon, ça relève de la même importance que de parler de la littérature, de la peinture ou de toute autre forme d'art. Ça participe, voilà, à la formation de tout un chacun, hein, de montrer donc des films qui ont créé
ce qu'on voit aujourd'hui.
Oui, voilà. Les élèves souvent sont très réceptifs par rapport. Ils découvrent plein de choses en fait. Beaucoup ignorent que le cinéma a été muet, par exemple, ou que le cinéma a été en noir et blanc à un moment. Donc voilà, j'explique pourquoi, comment on est passé du muet au parlant ou du noir et blanc à la couleur. Et en fait, je leur dis souvent aussi que les vieux films, ça n'existe pas. Quand on va voir une exposition de peinture, si on va voir une exposition de toile de Van Gogh, par exemple, on ne se dit pas « je vais voir une exposition de vieux tableaux ». Non. si on lit un roman de Balzac, si on étudie un roman de Balzac en classe, on ne se dit pas « je vais étudier un vieux roman ». Pour les films, c'est la même chose. Le cinéma, il dispose d'une histoire. Il y a une évolution des techniques de la même façon que pour la peinture. Et on sait bien, par exemple, qu'une exposition Van Gogh, ça fait le plein pendant toute sa durée. C'est l'un des peintres les plus courus aujourd'hui.
C'est sûr.
C'est pas encore à la même échelle pour le cinéma, mais il y a un intérêt accru du public pour l'histoire du cinéma. Alors, soit par nostalgie, des gens qui ont vu le film à sa sortie dans les années 50 ou 60 qui apprécient le revoir avec leurs amis en salle, mais il y a aussi un public qui s'intéresse véritablement, qui est peu intéressé ou moins intéressé aujourd'hui par le cinéma contemporain et qui voilà, s'intéresse davantage au cinéma du passé.
Et par quoi on commence lorsque l'on analyse l'esthétique d'un film ?
C'est variable, ça dépend du film déjà, du contexte de production, du réalisateur. Bon, moi je commence toujours par une mise en contexte du film, la mise en contexte à la fois sur le plan de la chronologie et sur le plan du cinéaste, où on en est dans sa carrière. Ou alors l'acteur. Un film avec Jean Gabin, par exemple. Le Jean Gabin des années 30, bon, qui est un jeune premier, qui est un acteur très moderne dans sa façon de jouer. Ou le Jean Gabin des années 70, c'est évidemment pas le même. Son statut a changé, son image a changé, sa notoriété également. Il faut bien comprendre que Gabin, dans les années 30, c'est-à-dire avant-guerre, est l'acteur français
plus connu,
plus prisé par le public, et l'un des plus modernes aussi, dans sa façon de concevoir le jeu au cinéma.
Vous enseignez aussi le cinéma, il me semble, à Caen.
Je n'enseigne plus depuis de nombreuses années, mais à la base, je suis prof de lettres. J'ai peu enseigné le français, j'ai surtout enseigné le cinéma, effectivement. J'ai surtout enseigné l'histoire du cinéma et l'analyse de films à l'université de Caen pendant 10 ans. Et puis progressivement, donc, je me suis éloigné de l'enseignement à l'université. Désormais, je me consacre plus particulièrement à la formation du public adulte, du public des enseignants, par exemple, dans le cadre des dispositifs nationaux d'éducation à l'image, comme collège au cinéma ou lycéen au cinéma. Donc, je m'adresse à mes pairs, d'une certaine façon, je m'adresse à des enseignants donc, qui suivent des conférences sur une journée pour adapter le contenu dans leur programme, dans leur classe, avec leurs élèves.
Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir aussi comment votre passion pour le cinéma en fait, s'est déplacée vers le fait d'en parler plutôt que d'en faire.
Alors, c'est une bonne question. Je crois que pour faire du cinéma, il faut avoir du talent. voilà, comme toute forme d'art.
C'est ça le problème.
Que je ne possède pas. Mais j'ai été depuis très jeune, depuis 6-7 ans, j'étais passionné par les films. J'allais au cinéma très régulièrement avec ma mère, notamment, puis ensuite seul. Il y a eu l'ère des magnétoscopes, l'ère de la vidéo domestique au milieu des années 80. Donc j'ai été un enregistreur de VHS compulsif pendant des années, un collectionneur de DVD. Donc l'histoire du cinéma, pour moi, ça remonte très très loin. Parce que j'étais adolescent, en quatrième ou troisième, je regardais déjà des films d'Alfred Hitchcock des années 50 ou des polars américains. J'étais un fan du cinéma de minuit. Donc c'est une véritable passion. Et quand on est travaillé comme ça par quelque chose, on aime bien le transmettre. Alors, soit oralement, ce que j'ai fait depuis près de 30 ans, ou alors par le biais de l'écrit. Je suis également rédacteur en chef d'une revue de cinéma, d'une revue d'histoire du cinéma qui s'intitule Eclipse, qui vient de fêter ses 30 ans d'ailleurs.
Ah, quand même.
Chaque volume de cette revue est consacré à un cinéaste en particulier, où l'on revient en détail donc sur tous les films qu'il a réalisés.
Et c'est, et un, donc, c'est, une revue. C'est un magazine mensuel ?
C'est pas un magazine, c'est une revue. Hein.
Une revue
qui se présente sous la forme d'un livre. On a créé cette revue avec un groupe donc, d'amis. À l'époque, on était étudiants, hein, bien sûr. On a créé cette revue en 1994. Nous sommes en 2024.
30 ans.
Elle a fêté ses 30 ans en février dernier, pour être exact.
Et pour finir, dernière question. Si vous aviez un film à nous conseiller, ou peut-être un top 3, qu'est-ce que vous nous diriez ?
Alors, un film que nous programmons en ce moment ou un film dans l'absolu ?
Comme vous voulez, vous pouvez dire les deux si vous voulez.
Alors, dans les films que nous programmons en ce moment, je pense que le film italien de Luchino Visconti, Bellissima, avec Anna Magnani, est à voir, puisqu'il est quasiment inconnu en France, mais c'est un film culte en Italie, et tous les spectateurs qui le voient, bon, sont ravis. Hein. Applaudissent même après le film, ce qui est quand même notable. Et un film dans l'absolu, Vertigo, Sueur froide d'Alfred Hitchcock, avec Kim Novak et James Stewart, qui est mon film de chevet. Hein. Je me souviens très bien de la première fois où je l'ai vu. Je révisais le brevet des collèges chez un ami qui avait Canal+, et Canal+, l'avait diffusé un samedi soir parce que le film avait fait l'objet d'une ressortie. Et j'ai été absolument subjugué par ce film d'Hitchcock que je ne cesse de revoir périodiquement donc depuis l'année 1986.
Et ben, non, belle anecdote. Ben, merci beaucoup, Youri Deschamps, d'être venu sur Radio Pulse pour nous parler de films et de films de patrimoine. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous.